L'émission suivante est également publiée sur notre blog « Un héros dans le net ». Rendez-vous dans la section « Commentaires » pour joindre la discussion.
Aujourd'hui à l'émission « Parole à propos », nous parlons de la pensée de G.K. Chesterton. Bonjour, bienvenue à l'émission Parole à propos. Mon nom est Pascal Deneau. Je suis votre humble animateur aujourd'hui. Vous savez que cette émission est animée par différentes personnes, mais donc je remercie le pasteur Pelletier de me prêter sa chronique pour y participer également. Et aujourd'hui, on reçoit une grosse pointure à l'émission, nul autre que Gilbert Keith Chesterton en personne, mieux connu sous le nom de G.K. Chesterton. Alors, Monsieur Chesterton, ça va bien?
Salut Pascal.
T'attendais pas à ce que je t'introduise comme ça, alors vous l'avez reconnu. Sylvain Aubé qui participait donc quelques émissions. Je le présente comme Chesterton parce que depuis que je discute avec mon ami Sylvain depuis plusieurs années presque maintenant, on peut dire, régulièrement il me cite ce penseur que je connaissais pas vraiment, qui est un écrivain, un journaliste, un essayiste, un poète qui, anglais, donc qui est né en 1874 qui est mort en 1936. J'ai la page Wikipédia ouverte devant moi là, pendant que je vous parle, qui résume donc brièvement un peu qui était cet homme-là. Et donc Sylvain, j'aimerais que tu nous dises un petit peu donc quel genre d'influence il a eu dans ton parcours, dans ta pensée. Pourquoi est-ce que tu le considères comme un bonhomme important dans le christianisme?
Ben personnellement, de tous les auteurs chrétiens que j'ai lus, c'est lui qui me semblait le plus persuasif au niveau de l'apologétique, au niveau de la défense de la foi. Je dirais pas qu'il est forcément le plus rigoureux au sens intellectuel, ni même le plus profond. C'est vraiment au niveau de son style qu'il va avoir une cohérence et j'ai l'impression un regard très, très englobant, avec un certain recul. Donc, ça va recouper l'histoire, la philosophie, la moralité, la théologie. Donc, tout ça entremêlé, mais avec un style très élégant, très léger, très drôle. Mm-hmm. Donc, c'est un personnage que c'est du bonbon à lire, dit Chesterton.
Ouais, ben en fait, toutes les fois où tu me le citais, c'était toujours des petites citations punch et efficaces. Et donc, je trouvais ça très, très intéressant. Par contre, en me familiarisant tranquillement avec lui, je me suis rendu compte qu'il était pas très, très, très sympathique aux calvinistes. Ça m'a un petit peu attristé. Moi qui suis un calviniste, je pense qu'on se serait pas bien entendu à ce niveau-là. Alors, mais donc on invite donc cette grosse pointure qui était un catholique pour aujourd'hui lui donner un peu une tribune sur notre radio. Alors, voyez comment on est très gentil, œcuménique et qu'on fait de la place à d'autres confessions. Mais en fait, c'est parce qu'on croit qu'on a plusieurs points en commun et sur le plan de l'apologétique, parce que c'est là, je pense, sa contribution dans la discussion ou sa contribution au christianisme, c'est la défense de la foi et la façon qui la défend d'une manière un peu unique, dans des arguments qui sont un peu renversants. Sylvain m'a envoyé un document qui résume une discussion, je pense, un article qu'il avait publié où il y avait un débat, hein, il y avait un premier auteur qui avait écrit un article où il attaquait la foi chrétienne et Chesterton lui répond. L'article, ou en tout cas le titre là, que j'ai, c'est Christianity and Rationalism, donc le christianisme et le rationalisme. Et donc voilà, on va discuter de ça aujourd'hui. Sylvain va nous présenter certains arguments de cet auteur-là pour répondre à des objections fréquentes qu'on entend encore aujourd'hui, qu'on entendait déjà dans son temps, par les sécularistes, par des gens qui s'opposent à la foi chrétienne.
Mm-hmm. Et au fond, ce que fait valoir Chesterton, c'est bien souvent en ne contestant pas du tout les faits. C'est-à-dire que même si parfois il y aurait des nuances, il y aurait des contre-exemples et tout, dans les faits qui vont être invoqués par les athées ou par les laïcs militants, Chesterton va admettre les faits, parce que souvent il y a un fond de vérité, mais faire valoir qu'au fond, si on est capable d'imaginer que la foi peut être vraie, sans même en être convaincu, là, si on est seulement capable d'imaginer que peut-être elle soit vraie, d'admettre la possibilité de sa véracité, bien, les arguments qu'on apporte sont souvent peuvent finalement être utilisés pour défendre la foi plutôt que de l'attaquer.
Et je trouvais ça intéressant parce que comment il termine l'article, c'est qu'il dit, le monsieur en question avec qui il discute a sorti son artillerie, mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il pointe le canon en sa propre direction. Il se tire dessus.
Voilà. Que bien souvent, un argument semble persuasif seulement si on est convaincu d'avance qu'on a raison, mais dès que la possibilité de peut-être changer d'opinion est vraiment considérée, ben, nos propres arguments peuvent être contenus. Donc, le premier de ces arguments-là, c'est l'idée qu'il y a eu plusieurs dieux païens dont l'histoire ressemblait beaucoup à l'histoire du Christ. Donc, des dieux qui étaient nés avec une étoile comme signe d'une vierge ou qui étaient morts crucifiés, qui étaient ressuscités pas longtemps après. Donc, il y a plein d'éléments de l'histoire du Christ qu'on peut retrouver dans plusieurs des histoires des dieux païens. Et donc, que les athées ou que les laïcs militants vont utiliser ce fait-là pour dire « Ah, ben voilà, c'est signe que le Christ n'est qu'un dieu païen comme les autres, n'est qu'un mythe inventé. » Donc, on peut faire le lien avec la dernière chronique que j'ai faite avec toi à ce sujet-là.
Mais, sur le documentaire de Zeitgeist, qui dit quelque chose de similaire. Là. Quelqu'un me dit « Ah, vous parlez encore de ça, Zeitgeist, c'est dépassé. » Et juste pour justifier, là, pour qu'on revienne là-dessus, parce que ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment, là, quelque chose qui a plus que 2 semaines sur Internet, c'est déjà vieux. Alors, ça a 3-4 ans, cette histoire-là. Mais les arguments sont les mêmes depuis des décennies maintenant. Hein, de dire que parce qu'on retrouve des similarités dans le paganisme, des éléments similaires à la foi chrétienne, mais on dit, voyez-vous, le christianisme, c'est juste un mythe païen qui a été popularisé.
Mm-hmm. Donc,
comment Chesterton répond à ça?
Ben, la réponse de Chesterton, c'est de dire, OK, donc, évidemment, il y aurait des nuances dans les faits à faire, mais même en passant par-dessus cette étape-là, de dire, OK, admettons que c'est vrai, en partie c'est vrai qu'il y a plein de dieux païens avec plein d'éléments communs avec le Christ, Chesterton fait valoir qu'au fond, si, comme le prétend le christianisme, l'être humain est construit selon une certaine structure où on a besoin d'être sauvé, où on a on est construit autour d'une histoire qui est celle du Christ, que le destin de l'univers serait voué à se réaliser ainsi que l'explique l'histoire chrétienne, eh bien, quoi de plus normal, quoi de plus cohérent, quoi de plus logique, quoi de plus naturel, qu'effectivement, l'humanité ait toujours rêvé à cette histoire-là de façon plus vague, des fois tordue, des fois plus abstraite, mais quand même à une histoire du Christ, à une histoire où il y aurait une naissance immaculée, où il y aurait une résurrection, où il y aurait une crucifixion. Donc, où il y aurait effectivement les éléments qu'on retrouve dans l'histoire du Christ. Et c'est un peu de dire aussi que, justement, s'il y a plein d'histoires un peu partout, dans toutes les mythologies ou dans toutes les cultures, ou avec certains thèmes qui se répètent, de dire que deux amoureux sont séparés par le destin, ou que deux amis doivent lutter l'un contre l'autre par amour pour une même femme, que c'est des histoires qu'on retrouve dans plein de cultures différentes.
La légende ne vient pas invalider la réalité.
Et voilà, au contraire, si on voit la même histoire être représentée dans toutes sortes de cultures, dans toutes sortes de mythologies différentes, ben c'est probablement parce qu'il y a une racine dans la réalité, c'est probablement parce qu'ils ont une sorte de réalité commune, une sorte de validité commune.
D'ailleurs. Ça ressemble un petit peu à quand Platon décrit la réalité où nous, ce qu'on voit, c'est les ombres dans la caverne là, qui se reflètent sur les murs. Mais à l'extérieur, il y a cette réalité-là qui est là. Alors, c'est comme s'il y a un reflet à d'autres niveaux de cette racine-là, comme tu l'appelles, de cette substance qui est vraie, mais donc qui va forcément se manifester dans le monde.
Exactement. Par exemple, l'histoire de Roméo et Juliette aussi est peut-être pas vraie en elle-même. Peut-être que Roméo et Juliette n'ont jamais existé, mais il y a dû avoir des tonnes d'histoires dans l'humanité qui correspondent à celles de Roméo et Juliette. Et que c'est pour ça que l'histoire existe. On a fait l'histoire inventée parce que la structure humaine est ainsi faite que c'est à peu près certain que cette histoire-là se produise. Et au fond, le christianisme est un peu selon la même réalité, à savoir que tous les dieux païens ont peut-être pas existé en eux-mêmes, mais qu'ils ont été inventés, ils ont été élaborés, parce que c'est dans la structure humaine, c'est dans la nature humaine que notre vie spirituelle s'accomplisse de cette façon-là. Et le christianisme dit simplement, ben oui, ça s'est passé, et juste à l'histoire du Christ, contrairement aux histoires des dieux païens, et effectivement localisé dans l'histoire, dans le temps et dans l'espace, donc dans l'histoire.
C'est un excellent point, surtout quand on le rapproche avec la doctrine chrétienne, que le péché, qui n'a pas d'essence en lui-même, n'a d'essence que pour défaire la réalité que Dieu a créée, pour la déformer. Alors, il va de soi que l'idolâtrie, finalement, c'est une déformation de l'adoration envers le vrai Dieu. On transpose ce qui devrait aller au vrai Dieu, et qui donc origine de cette substance-là, ce désir-là d'adorer le Créateur, mais qui, en raison du péché, devient difforme.
Alors, exactement. Les chrétiens vont parfois se faire accuser d'être intolérants face aux païens en disant « vos religions sont pas vraies ». Mais au fond, les chrétiens sont dans un sens beaucoup plus tolérants qu'un athée, parce qu'ils vont dire « vos religions sont fausses » au sens qu'elles sont déformées. Ils vont dire « il y a une racine de vérité dans vos religions, il y a une intuition vers Dieu qui est sensée, qui est légitime ». Sauf que vous vénérez pas le bon Dieu. Vous avez mal identifié qu'est-ce qu'est effectivement Dieu, mais votre démarche à l'origine est légitime, elle est sensée. Alors que les athées vont dire non, toutes les religions sont complètement fausses. Donc, c'est pas exactement ça la tolérance non plus. Là. Mm-hmm. Donc voilà, en effet, je crois que...
L'argument est un peu illogique, l'argument athée, quand on dit « puisque l'homme est religieux et qu'on retrouve des religions partout, donc toutes les religions sont fausses ». C'est à peu près ça qu'on est en train de dire. Il lui dit, puisque l'homme est religieux, qu'il y a des religions partout, forcément, c'est que fondamentalement, il y a quelque chose de vrai dans la démarche religieuse.
Ou en tout cas, que ça ne l'invalide pas. Ouais. Et si on veut invalider la religion, c'est pas en disant l'homme a toujours été religieux et il a toujours eu des histoires religieuses qui ressemblent à celles du Christ, qu'on va prouver que l'histoire du Christ est fausse. C'est certainement pas un argument contre le christianisme.
Le deuxième argument... parce que dans l'article, là, il en présente quatre, alors on va se dépêcher parce que le temps file.
Oui, bien sûr. C'est à savoir qu'on va souvent opposer la religion à la nature, en ce sens où la religion va prôner des valeurs de tempérance, des valeurs de chasteté. La chasteté en particulier, c'est pas sexy à notre époque. Il y a bien des gens qui vont avoir l'impression que c'est morbide, qu'on est contre le sexe, qu'on est contre le plaisir, qu'on est contre la vie, contre l'amour. Et donc, c'est ça, que la religion va inciter des gens à renoncer au plaisir, à la vie, au bonheur. Et puis ça, quand on voit les histoires des saints dans l'histoire de l'humanité qui ont été très souvent, dans l'histoire du christianisme, je veux dire, qui ont souvent été des ascètes célibataires, qui n'avaient pas de femme, pas d'enfants, qui ont vécu dans la pauvreté, qui ont vécu toutes sortes de difficultés, toutes sortes de misères pour vivre leur foi dans toute son intensité. Donc, c'est ça, ça donne une image un peu morbide de la religion. Et dans un sens, c'est vrai, c'est un peu la même idée de dire, oui, il y a des gens qui ont refusé, qui ont renoncé à toute forme de bonheur mondain, qui ont refusé la santé, qui ont refusé la famille et le foyer pour vivre une vie complètement dévouée à la foi dans toutes sortes de difficultés physiques et mentales. Mais le point de Chesterton est de dire, c'est pas en prouvant ça, c'est pas en constatant ça, qu'on va prouver que la religion, encore une fois, n'existe pas. Au contraire, là où son argument est encore une fois plutôt drôle, il dit, on peut peut-être dire que la religion est une mauvaise chose, est une chose nuisible, l'argument pourrait aller dans ce sens-là, mais de dire que la religion est fausse, qu'elle n'est rien, ne peut certainement pas revenir du fait que, ou n'est certainement pas cohérent avec cet argument-là, selon lequel elle serait, elle aurait des effets morbides comme ça, parce qu'il fait la comparaison avec un ivrogne. Et si on voit un ivrogne qui se promène avec le regard perdu, qui n'a pas de vêtements,
qui est en haillons, oui, voilà, qui est dans la même situation qu'étaient ces saints pieux,
on peut peut-être dire que c'est une mauvaise chose, que l'alcool est une mauvaise chose, mais on peut certainement pas utiliser l'argument de ces personnes-là pour dire que l'alcool n'existe pas. C'est un peu ce qu'on va faire généralement de façon un peu incohérente. Les gens qui vont s'opposer à la religion vont dire que la religion n'existe pas, ou elle est fondée sur quelque chose d'irréel, sur quelque chose d'inventé. Et après ça, l'attaquer comme quelque chose de morbide, que les gens ont tout renoncé, qu'il y a plein de gens qui ont tout renoncé pour leur foi. Mais encore une fois, on peut peut-être attaquer la foi comme quelque chose de malsain, de mauvais, de condamnable, selon cet argument-là, mais certainement pas comme quelque chose d'irréel, comme quelque chose d'inventé, parce que très manifestement, ça a eu un effet très réel, très concret dans la vie des gens. Il y a des gens qui ont renoncé à tout pour leur foi, ils ont renoncé à tous les autres plaisirs, à tous les autres sens que pouvait avoir leur vie. Et justement, la formulation de Chesterton qui est plutôt amusante, je trouve, c'est de poser la question, qu'est-ce qui explique ces renoncements-là qu'on a vus dans l'histoire de façon très radicale chez les saints, de façon plus modérée dans la plupart des croyants de notre époque. Mais n'empêche qu'on voit une sorte de renoncement à des plaisirs du monde, à certains bonheurs, à une forme de bonheur du monde. Il y a des gens qui vont dire, c'est parce qu'il y a des gens qui en sont venus à aimer le malheur, à se croire heureux alors qu'au fond, ils sont plus malheureux que les autres. Mais bon, c'est pas très plausible, c'est pas très crédible si on prend ça avec un peu de bon sens. Et que ce qui serait plus plausible, c'est simplement de dire qu'il y a des gens qui ont trouvé le secret d'un pouvoir ou d'une expérience qui, comme l'alcool, était une consolation terrible et une joie solitaire. Donc.
C'est bon. Mais merci Sylvain, on va arrêter ici, on va faire une pause et puis on revient après la pause.